Hier, je travaillais à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je n'ai aucun antécédent judiciaire.
Avons-nous tous, toutes, une histoire digne, susceptible d'être racontée, de faire roman, héros ou anti-héros, qui prend la parole dans la littérature? Une femme simple, 53 ans, mère de deux enfants, séparée, salariée, peut-elle être une héroïne? Otage, le nouveau roman de Nina Bouraoui, donne vie à Sylvie Meyer, employée de la Cagex et sans antécédent judiciaire. Bonjour.
Bonjour.
Nina Bouraoui, j'avais envie de dire bonjour Sylvie Meyer.
Bonjour, oui, j'accepte.
Vous acceptez? Ce serait bizarre quand même, parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec vous.
Ah, peut-être une part obsessionnelle, peut-être une acuité sur les liens amoureux, sur la société, sur sa violence. Mais je crois que je pourrais m'apparenter à elle dans le sens où elle m'a choisie. La naissance des livres, elle est très étrange, parfois presque mystique. Et je crois que cette femme s'est imposée à moi. Alors peut-être qu'elle exprimait une part de moi très enfouie, peut-être une part honteuse, je ne sais pas. Et aussi, elle exprimait mon regard très doux sur ces femmes-là et sur ces femmes qu'on n'entend jamais, mais qu'on voit parfois.
Oui, elle a toute sa place, même si elle vous ressemble de près ou de loin, elle a toute sa place dans votre œuvre, puisque depuis une trentaine d'années, vous travaillez sur cette question-là de la condition féminine.
De la condition féminine, des hommes et des femmes qui vivent dans la marge, de la condition identitaire, de la condition amoureuse et sexuelle. Et c'est vrai que, alors c'est une femme hétérosexuelle, moi j'ai beaucoup écrit sur l'homosexualité, mais j'ai aussi écrit beaucoup sur la liberté. Et Otage, c'est un livre sur la liberté. Sommes-nous libres ou pas?
Alors vous écrivez, les femmes sont fortes davantage que les hommes, et j'ai le sentiment que vous racontez surtout leurs faiblesses.
Oui, j'exprime l'immense fragilité du corps.
Leur vulnérabilité.
Leur statut de proie. C'est qui était intéressant quand je parle de la violence faite aux femmes. Bien sûr que moralement, les femmes sont fortes parce qu'on leur a appris à être fortes, on leur a demandé d'être fortes. Et elles ont été, des petites filles, en contact avec la possibilité de la sauvagerie. C'est-à-dire qu'une petite fille et chaque femme a en commun cette peur qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge, la peur du viol, la peur de l'agression. Cela ne veut pas dire que des hommes ne se font pas violer, pas du tout. Mais une femme, une jeune femme, une adolescente, quand elle va sortir le soir, on lui dit « fais attention, ta tenue, etc. » Un jeune garçon, je ne crois pas. On lui dira plus « ne te bagarre pas ». Et cette peur de l'agression physique, cette fin de la poésie amoureuse, parce que l'intimité, la sexualité ne devraient être toujours que du côté du désir, de l'amour, de l'histoire, font les femmes, les condamnent à occuper une position, je trouve, terrifiante, celle de proie, et très fragilisante, mais qui donne aussi de la force.
Comment a surgi Sylvie Meyer dans votre vie? Vous dites qu'elle vous a apprise, mais est-ce qu'il n'y a pas un fait divers? Parce que ça pourrait être un fait divers, ce roman. Un fait divers qui vous a alimenté, qui vous a fait dire « Ah voilà, là, il y a un début d'histoire ».
Mais je crois qu'à l'époque, il faudrait vérifier peut-être, parce que ce livre a été commandé fin 2014, c'était au départ un texte destiné au théâtre, pour le Paris des femmes, et puis après le texte a grandi avec les années, il a été vraiment, son écriture a été vraiment achevée en 2016, donc vous voyez que c'est un texte qui n'est pas du tout opportuniste et qui peut-être ressentait déjà l'accablement et la dureté des travailleurs. Et je crois, je me souviens d'images. Alors, est-ce que c'était les cadres d'Air France qui avaient été retenus par les employés? Et cette image de cet homme qui se sauve, qui escalade un grillage, et je crois qu'on lui arrache sa chemise.
Exactement.
Et ça m'avait extrêmement frappée et j'avais trouvé ça. Pour moi, c'est le degré vraiment ultime du silence entre les employés et les patrons, entre ce soi-disant gouverner ce mot dont je fais partie, le peuple et les gouvernants, je crois que la prise d'otage est vraiment la fin du langage, la fin des mots, et c'est d'une immense violence, mais des deux côtés, parce que ça veut dire qu'un travailleur qui est capable de prendre en otage son patron est sans espoir et sans espérance.
Alors, on parlera tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne sur cette question du théâtre au roman, de ce glissement comme ça de l'écriture, de ce changement de narration qui va de l'un à l'autre, mais peut-être un mot sur le titre « Otage », avec un S. Qui est otage ? De quoi Sylvie Meilleur est otage ?
Sylvie Meilleur est otage peut-être de son âge. Avoir 53 ans est peut-être un tournant dans la vie d'une femme. Elle est otage d'un chagrin amoureux parce que son mari l'a quittée. C'était un homme bon, fort, brave, mais qui n'a pas su déceler en elle peut-être toutes les failles qu'elle a tant cachées. Sylvie Meilleur, elle est otage de son silence parce que la première violence, on ne va pas révéler le livre, mais on a bien compris qu'il y avait une tension entre son patron et elle, va révéler une violence bien plus enfouie, primitive. Elle est otage d'une pression économique, puisque son patron va lui demander de dresser des listes, de constituer des viviers, de dénoncer qui sont les employés, ces petites abeilles qui travaillent pas assez, qui arrivent en retard, qui sabotent l'entreprise. Et puis elle est otage, je crois, vraiment de son corps, c'est-à-dire que elle ne s'est jamais émancipée de l'événement terrifiant qui l'a traversé à l'âge de 15 ans.
Et elle travaille à la Cagex.
Cagex,
c'est oui. Pas un hasard.
Oui, c'est vrai. Ah oui, bravo, oui. Ça, c'est, on pourrait faire des liens psychanalytiques auxquels je n'ai pas pensé.
C'est évident, non ?
Oui, mais vous avez raison, incroyable, Cagex, la cage. Alors moi, j'ai pensé Cagex, caoutchouc. Voilà, c'est une usine de caoutchouc, de pneus, etc. Mais vous avez raison, vous m'éclairez.
Et je me suis demandé si Victor Andrieux, donc le patron de la Cagex, n'est pas aussi, d'une certaine façon, otage lui aussi, de sa réussite, de son rôle de patron, de sa masculinité, et que finalement, ils étaient l'un et l'autre otages.
Ah oui, et la prise d'otage...
Sans raconter le détail du
bien
livre.
Bien sûr, et puis la prise d'otage, elle commence quand le patron... c'est un peu le bras droit, et après elle va devenir le bras armé du patron. Mais c'est vrai que lui, il a son statut de patron, qui est terrible. Ce n'est pas du tout un livre anti-patron, mais c'est vrai qu'il a le mauvais rôle. Il a le rôle de celui qui va licencier, il a le rôle de celui qui n'est pas humain, il a le rôle de celui qui donne sa confiance et qui va la retirer, il va lui mentir, il lui dira « ce n'est pas grave », mais en fait ce sera très grave. Et c'est vraiment, autant le mari... de Sylvie Meilleur a quelque chose de très attachant, de fort, de robuste. Et je voulais parler d'un homme avec beaucoup de douceur. Autant le patron a vraiment ce rôle d'homme qui a le pouvoir sur les femmes, le pouvoir sur les jeunes femmes, le pouvoir aussi, on a l'impression que sa vie conjugale aussi est obscure et parfois pas très saine. Et puis, je pense qu'il l'aime vraiment, Sylvie Meilleur. Il la respecte, mais il va l'obliger à transgresser sa morale. Donc lui-même est otage de son manque de morale.
Nina Bouraoui, je sais que vous n'êtes pas indifférente à la chanson française et à la musique. Je vous propose de découvrir Féloche et son mandoline orchestre.
Nous nous aimions à cette époque, bleu laideron. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir tu me sacras, poète, blond laideron. Descends ici que je te fouette, oh mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir laideron. Ma mandoline au fil du front, poids mes salives desséchées, roux laideron, infecte ton corps, les tranchées de ton sein rond. Petites amoureuses, que je vous hais, plaquées de fouffes douloureuses, vos tétons laids, piétinez mes vieilles terrines de sentiments Hop donc, soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboîtent, oh mes amours, une étoile à vos reins qui boite. Tournez vos tours, et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé.
Mes petites amoureuses de Féloche, album annoncé pour la semaine prochaine. Alors j'ai découvert, Nina Bouraoui, que vous avez écrit des chansons.
Oui, c'est vrai.
Pour Céline Dion et Sheila.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que la forme courte vous séduit, vous, la romancière ?
Alors, c'est très compliqué d'écrire des chansons. C'était vraiment... pour Céline Dion, c'était marrant parce que à l'époque, c'était Jean-Jacques Goldman qui regardait sa télévision. Et quand j'ai eu mon prix Renaudot, Guillaume Durand m'a invité une seconde fois. Il y avait Yannick Noah qui était sur le plateau, qui publiait un livre de photos, je crois. Et le lendemain, Jean-Jacques Goldman appelle Jean-Marc Roberts, mon éditeur de l'époque, et lui dit voilà, il prépare un album, mais écrit par des romancières pour Céline Dion. Et Jean-Marc dit formidable, très bien, il m'appelle. Jean-Marc me dit allez, au travail. Je dis, mais je n'ai jamais écrit de chanson. Et donc pendant un mois, j'ai cherché, puis j'ai eu une fulgurance. La chanson, il faut faire très vite. En 3 minutes, donner une émotion. Le plus insidieux et compliqué, ce sont les rimes. Avec une rime, on peut être très vite ringard ou à côté. Donc ça, c'était assez compliqué à faire. Et puis finalement, j'ai adoré. Puis j'ai écrit 3 chansons pour Céline Dion. Et le truc le plus fabuleux, c'est qu'elle les a chantées à Bercy, mais 2 chansons sur les 3, 2 chansons. Et c'était, je trouve qu'il y a une immédiateté avec la musique que la littérature, hélas, n'a pas.
Ça fait battre le cœur tout de suite.
Elle capture le cœur et surtout, elle vous ramène à des territoires anciens, amoureux ou tristes. Mais c'est pas grave, on aime bien être triste parfois quand on écoute une chanson. Et je trouve cette fulgurance très séduisante.
Nina Bouraoui, vous êtes aujourd'hui notre invitée pour ce roman Otage, qui fut donc à l'origine une pièce de théâtre et qui garde présent cette origine, parce que ce roman, c'est une sorte de long monologue, en fait, de Sylvie Meyer, qui s'adresse à la fois à son patron, à un juge, à elle-même. Enfin, elle raconte sa vie, et c'est essentiellement de son point de vue, même si l'on entend la parole du patron, Victor Andrieux.
Oui, parce que c'est un livre aussi sur le silence, et c'est une voix interne, c'est une voix silencieuse, c'est un peu étrange de dire cela. Mais c'est comme si on entrait, on pénétrait son esprit. Et cette femme qui s'est tue pendant 40 ans a un flot de paroles qui est simple, qui est visible. Mais elle le dit, elle a le don du mot, elle a le sens de la formule. Et pour moi, c'était important qu'elle s'exprime ainsi parce que le discours n'est pas dénué de poésie non plus. Il y a des choses dures, mais elle est quand même... C'est une femme simple, mais qui aime le bruit du vent dans les arbres, qui aime le chant des oiseaux, qui regarde le ciel, qui rêve, qui espère une autre vie.
Et qui se remémore les phrases qui ont marqué sa vie, ces phrases que l'on entend ou pas sur le moment, qui vous blessent ou pas, qu'on a oubliées et qui peuvent revenir, et qui sont, je trouve, le fil narratif de Otage. Alors, Nathalie Sarraute a beaucoup écrit sur ces phrases-là. Elle a fait d'une seule phrase parfois un roman. C'est pas exactement le cas dans votre livre, Nina Bouraoui. Mais par exemple, cette première phrase, « Je m'en vais », dit son mari. Et sur ces quelques mots-là, la personne de Sylvie Meyer va commencer à s'effondrer, la fêlure va commencer à naître dans sa psyché et dans sa vie. Une phrase.
Il s'en va. Il s'en va sans bruit. Et elle intègre cette phrase. Pour elle, ce n'est évidemment que c'est très grave. Mais c'est une femme qui est dans le déni et qui exerce le métier de vivre, c'est-à-dire un métier qui n'est fait que de contraintes, de dureté, de labeur. Elle aime son travail. Pour elle, le travail, c'est la liberté. Mais c'est un travail difficile. Et cette phrase, ce sera un petit caillou dans la chaussure, puisque Sylvie Meyer a pris l'habitude, depuis son adolescence, à laisser grandir en elle les plantes carnivores qui vont la dévorer. Et cette phrase, le départ de son mari, elle le dit... Ce n'est rien, c'était comme une autre phrase du quotidien. Mais en fait, on comprend très bien que c'est là que tout l'équilibre qu'elle a essayé en vain de construire depuis son adolescence va s'effriter, s'effondrer. C'est l'histoire, non pas d'une crise de nerfs, mais vraiment d'un, d'un effondrement. Moi, je suis assez fascinée par le principe de liberté et j'ai souvent écrit, comme je le disais, pour toujours m'avouer, me dire non, la liberté n'existe pas parce que nous sommes dépendants de notre passé, du passé de ceux qui nous ont donné la vie, mais aussi et surtout, je pense, des forces invisibles de l'inconscient. Et ce sont ces forces invisibles de l'inconscient, tout d'un coup, qui vont dominer la vie de Sylvie Meyer.
Et qui vont arriver comme des éléments narratifs, comme des événements dans la vie de Sylvie Meyer. Il y a ces mots de vivier. Elle, son patron lui demande de constituer des viviers. Il lui dit à un moment, mais t'es cinglé. Et alors tout d'un coup, le mot cingle, justement, cinglé. Et puis il y a cette phrase qui la rend folle, dit-elle. Je ne peux pas faire autrement. La phrase de tous les patrons qui licencient. Et cette phrase, là aussi, la rend folle.
Oui,
au
parce
sens
que,
propre,
oui,
presque.
Oui, la rend folle parce qu'elle l'entend, elle sait ce qu'il veut dire, elle sait que c'est un mensonge et ne pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement, cela signifie je vais régler cela en faisant mal à des humains, des êtres humains, des hommes et des femmes. Et vous allez être complice de cela, Sylvie.
Et le langage peut faire mal.
Les mots sont des armes, nous le savons.
Elle va passer à l'acte, Sylvie Meyer. Sans forcément d'ailleurs mettre des mots.
Mon mari m'a quittée. Victor Andrieux m'a mis de plus en plus la pression. Et un soir, tout naturellement, j'ai décidé d'exister d'une autre façon. D'exister en tant que femme. Plus libre que d'habitude. Ça peut paraître fou, mais ôter la liberté à quelqu'un a affirmé ma propre liberté. C'est faux de dire qu'on est surpris par le départ de l'autre. Faux! Parfois même, on l'espère. On le provoque même.
Sylvie! Sylvie!
Anne Benoît dans le rôle de Sylvie Meyer au théâtre dans la mise en scène de Richard Bunel, pièce créée à la Comédie de Valence. Alors comment on passe du théâtre au roman, Nina Bouraoui? Naturellement.
En fait, oui, parce que c'est un texte comme souvent mes textes, voilà, c'est un texte qui est quand même très écrit, alors qu'il peut se dire, mais parce que moi j'écris aussi à voix haute, donc tous mes textes peuvent se dire. Et puis je n'ai rien changé. En fait, là, le théâtre s'arrête dans le bureau de Victor Andrieux, et j'ai poursuivi l'écriture sans aucun changement de ton ni de style, mais il était important pour moi de révéler la mémoire de Sylvie, de révéler son enfance, des parts de son enfance, de raconter son mariage, cette robe blanche qu'elle porte et cette petite tache de cerise qui tout d'un coup arrive comme un sortilège, un sort ou un mauvais pressentiment. Voilà, c'était ce qui était marrant, c'est que si je déplie le livre et si je replie, il n'y a pas de scorie, tout tient. J'ai tenu vraiment le sens du théâtre. Alors, je ne sais pas si tout le livre pourrait être adaptable au théâtre, ce serait très long, mais c'était important de se connecter au passé Sylvie Meyer pour expliquer sa violence. Évidemment, il y a une violence qui la précède.
Qu'elle nie au début.
Qu'elle nie parce que elle
qui revient.
Sylvie Meyer, c'est vraiment, elle occupe exactement le statut de victime. Le déni, le silence, la culpabilité et les ravages intérieurs. Si elle perd son homme, comme elle l'appelle, je trouve très joliment, c'est parce qu'un autre homme lui a fait tant de mal et elle est prisonnière aussi de cet homme-là. Il y a une forme de syndrome de Stockholm quand elle dit « quand un homme, l'odeur d'un autre homme, d'un policier, va lui rappeler ce Gilles », tout d'un coup, elle éprouve du désir.
On vient d'entendre la voix de Anne Benoît qui jouait le rôle de Sylvie Meyer. J'aimerais qu'on vous entende écrire, Nina Bouraoui, même si l'intention est très ambitieuse. Donc juste lire un court extrait de ce roman « Otage ».
Je ne veux pas passer pour une victime. Ce n'est pas mon genre. Et je déteste le rôle de la victime, trop passif. Moi, je suis une femme forte, je l'ai déjà dit. Et ce truc avec Andrieux n'est pas du tout un aveu de faiblesse, bien au contraire. J'ai voulu lui montrer que l'on ne pouvait pas toujours écraser les plus démunis. Je pense à mes petites abeilles quand je dis ça. qu'un patron ne peut pas tout se permettre. Non, ce n'est pas vrai. Le pouvoir n'est pas au-dessus des lois. Et encore plus, pas au-dessus de la morale. Car c'est ça qui m'a choquée dans cette histoire de Vivier. C'est la morale. L'histoire d'un type derrière son bureau qui est au-dessus des hommes et des femmes, qui se permet de les piétiner, de jouer avec leurs nerfs, de les humilier même. Oui, car c'est toujours de l'humiliation, de douter du travail des autres, et pire, c'est une mise en péril en fait. Le doute, c'est un petit coup de canif à chaque fois. Et au bout de 100 petits coups de canif, c'est simple, on crève. On ne crève pas en vrai, on tient toujours debout. On se réveille, on se lave, on se nourrit, on conduit les enfants à l'école, on pointe, on se met au travail... Mais à l'intérieur de soi, c'est mort. Et tous les gestes aussi deviennent morts. Et finit la performance. On se sabote. On a été mis en péril.
Otage de Nina Bouraoui, écrire, lire, lire, écrire. J'ai juste envie de dire que c'est une écriture au couteau.
Oui, c'est vrai, ça te sert bien. C'est vrai.
Parce que Sylvie Meyer s'empare d'un couteau à un moment.
Mais oui, mais parce que moi, je crois que... Alors voilà, ça c'est ma part, Sylvie Meyer. Je suis une grande obsessionnelle, une grande perfectionniste, en tous les cas avec moi. Enfin, je suis très exigeante et chaque mot, j'ai toujours travaillé ainsi. J'ai eu la grande chance de rencontrer Marguerite Duras. Et en fait, j'aimais chez elle à la fois sa façon de parler et sa façon d'écrire. Il n'y avait pas une grande distorsion et beaucoup de distance. Et je m'étais dit, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, j'avais publié mon premier roman, et j'avais pensé que écrire, c'était avoir un son, une sonorité, une musicalité, et qu'il fallait être reconnu entre tous et toutes. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tous les cas, lorsque j'écris, oui, c'est très épuré, parce que Sylvie Meyer a quelque chose comme ça de très nu, de très dénudé, dans sa simplicité, dans sa vérité, et chaque mot est à sa place.
Duras adorait le silence.
Oui.
Dans ses entretiens, mais dans ses livres aussi, et vous aussi, vous en avez parlé au tout début de cet entretien. Comment l'écriture s'est imposée dans votre vie, Nina Bouraoui ? Premier roman à 24 ans, c'est pas donné à tout le monde ?
Non, c'est vrai, mais très vite. À 8 ans, je vis en Algérie. Je passe les 14 premières années de ma vie à Alger. Dans les années 70, un pays qui n'est pas toujours très doux pour les petites filles... Après, élevée par des parents qui faisaient très, très attention à nous. Donc, je passe beaucoup de temps enfermée dans les maisons, dans les appartements, souvent assez seule parce que je suis ma sœur aînée au lycée. Et puis moi, je suis un peu celle qui traîne et qui ne parle pas beaucoup.
Vous ennuyez ?
Oui, je m'ennuie et surtout, je manque de liberté, mais de liberté intérieure parce que je suis enferrée dans ma forteresse. J'ai un problème d'identité, je me sens garçon, pas du tout fille. Et à 8 ou 9 ans, quand je commence à maîtriser l'écriture, je me rends compte que c'est d'une puissance et cela me donne une liberté hallucinante. Cela ne me quitte jamais. À 16 ans, j'envoie des nouvelles, je me souviens. J'avais eu un mot d'un éditeur, je crois, chez Grasset, très gentil. Puis à 19 ans, je commence mon premier roman, La Voyeuse, interdite. Je l'envoie, j'ai 23 ans. Gallimard me répond au bout de 3 jours. Et puis voilà, mais pour moi, ce n'était pas un rêve, c'était mon identité. C'est-à-dire que c'était la seule façon de me tenir droite et correcte dans le monde, c'était devenir un écrivain.
Vous n'aviez jamais imaginé autre chose ?
C'est, d'ailleurs, de toute façon, je ne sais faire rien d'autre. Mais c'était ainsi, c'était là où j'étais plus algérienne, plus française, plus femme, plus homosexuelle, non. Écrire me donnait vraiment mon identité. C'est là où je suis vraiment à ma place, où je suis la plus heureuse d'ailleurs.
Nina Bouraoui, on parle d'écriture, de langue française, de silence, de bonheur. Avec Pierrette Crouzet-Dora, nous allons causer étymologie et terminologie. Pierrette est en effet la chef de la mission de développement et d'enrichissement de la langue française, la DGLFLF, qui tient chronique chez nous une fois par mois.
En bon terme.
Et moi, je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot.
Interprète.
Ça simplifiera les autres définitions.
Interprète.
Bonjour Pierrette.
Bonjour Pascal.
Depuis longtemps, vous me dites ordinateur, ordinateur, ordinateur. Et qu'est-ce qu'il a, l'ordinateur ?
Enfin, aujourd'hui, je vous raconte la création du mot ordinateur. Nous sommes à la préhistoire, avant la création de la délégation à la langue française. Nous sommes le 8 décembre 1954. IBM lance une machine à calculer électronique qu'elle vend partout sous le terme computer, mais pour la vendre en France, elle sent que ça ne marchera pas, il faut un mot français. Heureusement, au service de communication d'IBM, se trouve un ancien étudiant de Jacques Perret, grand latiniste à la Sorbonne, et on décide donc d'écrire à Jacques Perret en lui expliquant...
Il va inventer un mot latin.
Non, pas du tout. Il va trouver un mot français. C'est un philologue. Il connaît la langue par cœur. Alors, le 16 avril 1955, il répond à IBM et il fait des propositions. Sa lettre est un monument de terminologie.
Vous allez nous la lire.
Et il dit ceci. Systémateur serait un néologisme, mais qui ne me paraît pas offensant. Il permet systémation, mais systémer ne me semble guère utilisable. Combinateur a l'inconvénient du sens péjoratif de combine. Combiner est usuel, donc peu capable de devenir technique. Combination ne me paraît guère viable, à cause de la proximité de combinaison. Et les Allemands ont bien leur combina, si bien que le mot aurait peut-être des possibilités autres que celles qu'évoque combine. Congesteur, digesteur.
Congesteur, c'est pas mal.
Évoque trop congestion et digestion. Synthétiseur ne me paraît pas un mot assez neuf pour désigner un objet spécifique déterminé comme votre machine. Alors là, Jacques Perret se gratte la tête et il se souvient de ses lectures de Saint-Augustin et la lumière lui vient. Il se souvient que lorsque Saint-Augustin parle de Dieu, il l'appelle le Magnus Ordinator.
Donc Dieu l'ordinateur.
Exactement, ça tombe sous le sens. Que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré, comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe, ordiner, un nom d'action, ordination. Évidemment, ordination désigne une cérémonie religieuse. Mais les deux champs de signification sont si éloignés et la cérémonie d'ordination connue, je crois, de si peu de personnes que l'inconvénient est peut-être mineur.
Et donc, voilà comment l'ordinateur est né.
Alors, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que Jacques Perret propose aussi le terme « ordinatrice », mais IBM choisit « ordinateur », allez me dire pourquoi.
On imagine.
Voilà. Et presque toutes les langues d'Europe restent sur « computer ». Seuls les Catalans et les Français vont utiliser « ordinateur ». Les Italiens utilisent les deux. Et les Italiens sont d'ailleurs capables de dire « il mouse del computer ».
Il mouse del computer.
La souris de l'ordinateur. Oui, vous imaginez deux substantifs anglais dans la même phrase. C'est vraiment terrible. Alors, pourquoi est-ce que le mot ordinateur a pris? Et c'est ça qui est remarquable dans cette histoire. Eh bien, c'est que l'industriel qui fabrique la machine met l'étiquette dessus. Ça s'appelle un ordinateur et personne ne discute. Tout le monde adopte le mot.
Et ça s'appelle, je crois, de la terminologie spontané.
Voilà, à partir de 1966, nous allons commencer à créer des commissions de terminologie et là, nous ferons de la terminologie aménagée.
Mais
celle que vous trouvez dans France Terme.
Plus efficace peut-être.
La terminologie spontanée, personne ne l'arrêtera jamais.
Merci beaucoup Pierrette, je suis seule à pouvoir vous arrêter. Nina Bouraoui, Dieu l'ordinateur Dieu, est-ce que l'ordinateur est un dieu pour vous ?
Ah oui, il l'est devenu.
Le seul Dieu.
Mais moi, j'adore que ce soit Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin, alors, était, lorsque je faisais des études de philosophie, était vraiment mon maître à penser. Je crois qu'il est kabyle. Oui, l'ordinateur, moi, je n'écris qu'avec un ordinateur, mais j'ai connu les machines à taper, même pas électriques. D'ailleurs, mon premier manuscrit, je l'avais envoyé avec des trous, avec les trous des lettres.
Et puis du typex,
Et c'est...
Merci beaucoup Nina Bouraoui. Otage, votre nouveau roman est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation, Véronique Durand et Marion Lestel, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain. 7 milliards de